Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Comment les mots peuvent encore témoigner de nos existences soudain tremblées? Ce sont eux auxquels nous nous raccrochons dans les moments extrêmes de la vie, quand nous nous trouvons à sa pointe finale, ou que nous gémissons sous l'aiguillon inassouvi du désir, ou que nous nous trouvons sous l'empire de l'angoisse absolue, dans les situations de désespoir, ou sous l'emprise des expériences limites de la conscience. Dans la détresse, le manque absolu ou la peur, quand tout vacille, quand nous présumons que ces mots seront les derniers ou le peu qu'ils pourraient rester de nous. Ce sont par exemple les mots écrits au revers de l'assise d'une chaise de torture, ou les mots écrits avec du sang sur les linges, ou des lettres minuscules cachées dans un ourlet, des micrographies clandestines, ou un papier déchiré jeté par une ouverture depuis un train qui conduit vers la mort. Mais aussi des mots ressassés, branlés par le désir impérieux, mots graffés sur de larges pages, inspirés par les esprits souterrains qui agitent les tables de notre inconscience, mots dessinés par les psychotropes, mots du deuil. Tous ces documents minuscules, parfois, sont des monuments, des immenses reliques dédiées à la vie, à nos vies. Ce sont ces documents absolus, ces documents miraculeusement recueillis et chéris, que l'exposition de la Bibliothèque nationale nous confie pour que nous puissions à notre tour témoigner de ce qui a été. Ça s'appelle « Manuscrit de l'extrême ».
Dieu des putes et des collabos, des chiens galeux et des profiteurs. Il me faut trouver une planque loin dans n'importe où. Je dois m'avouer à moi-même que je vis des grands moments d'angoisse. Et si je dois mourir, que cela soit, mais tout de suite. Mais je garde mon crayon et mon carnet, que je défends au péril de ma vie. Ce petit carnet qui contient là une preuve de ma triste vie. J'aimerais aussi un peu de temps pour faire la liste des mots qui habitent le silence. J'ai déjà trop peur de ce que j'ai écrit. Mais il faut que je fasse des traces écrites de ma mémoire.
Pour parler de cela, j'ai eu le plaisir de recevoir Laurence Lebras. Vous êtes la commissaire de cette exposition extraordinaire. Vous êtes conservatrice au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, chargée des collections pour les manuscrits modernes et contemporains. Et vous avez inventé cette exposition pour garder la trace de quelle mémoire?
Oui, l'exposition effectivement a été totalement inventée à partir de tous ces billets, ces petits feuillets épars que l'on conserve dans nos collections, au même titre que les manuscrits les plus célèbres. Et quand on voit ces manuscrits, quand on est amené chaque jour à travailler sur ces manuscrits-là, eh bien, apparaît à quel point ils sont pour la mémoire humaine, pour nous, qui les lisons maintenant, à quel point ils sont aussi précieux en ce qu'ils transmettent, vous le disiez tout à l'heure très bien, en ce qu'ils transmettent nos états d'âme, nos sentiments dans les situations les plus difficiles qu'un être humain est à traverser dans une vie, et en cela reflètent de façon extrêmement émouvante, de façon extrêmement brute, ce qui nous constitue en propre, cette humanité que l'on s'efforce d'exprimer une dernière fois, chaque fois qu'elle est menacée, soit par un risque de mort imminente, soit par un risque de perte d'équilibre dans sa vie.
Alors pour parler de cela, vous avez eu la gentillesse de me recommander d'inviter Annie Franck. Annie Franck, vous êtes psychanalyste, merci de venir avec nous. Vous êtes membre de la rédaction de Quinzaine Lettres à Réidée, de la fameuse quinzaine qui était de la quinzaine littéraire autrefois.
Oui.
Et vous avez sorti immédiatement, simultanément, ce numéro sur l'expérience limite et la création, et qui parle de cette question de du rapport entre la création et le trauma. Peut-être on pourrait commencer par dire qu'est-ce que c'est que le trauma ? Je suppose que c'est un peu plus que ce qu'on imagine, un traumatisme.
Il faut peut-être revenir à une définition un peu plus, pour avoir les idées un peu plus claires sur ce qui est en jeu dans ces créations de l'extrême ou de l'expérience limite. Je pense qu'il faut effectivement revenir à une définition plus restreinte que celle qui est communément utilisée dans les médias quand on parle de trauma. En général, on étend cette notion-là à n'importe quelle situation un peu choquante, une situation où on souffre, une situation de douleur. Et je pense que le trauma, c'est quelque chose de plus percutant d'une certaine façon, c'est-à-dire, c'est effectivement une situation où la capacité à s'adresser à autrui semble pulvérisée par le choc, la capacité de se représenter soi-même et de représenter la situation dans laquelle on est plongé se dissout totalement sous l'effet de ce choc. C'est bien évidemment plus que simplement être bouleversé ou voilà. C'est être conduit aux limites de ce qu'on peut se représenter soi-même et aux limites de notre capacité à nous sentir humains, s'adressant à d'autres humains. Voilà.
Alors moi j'ai le sentiment quand je vous entends que l'être est fracassé. Vous dites que on est à la limite de la possibilité de transmission à l'autre, et pourtant ces mots écrits dans ces circonstances limites nous atteignent absolument. C'est-à-dire que dans ce moment on ne peut pas s'adresser à l'autre. L'autre prend une telle importance que chacune des voyelles, chacune des consonnes nous frappe incroyablement. Laurence Lebras.
On pourrait dire que à travers ces manuscrits, on est dans le moment qui précède la pulvérisation.
Oui, l'effondrement.
On est dans ce moment qui précède aussi celui que Henri Michaux a si admirablement décrit dans son poème Le jour, les jours, la fin des jours. Partir, de toute façon partir, le long couteau du flot de l'eau arrêtera la parole. Eh bien, tous les manuscrits présentés dans l'exposition sont juste avant ce moment où le long couteau du flot de l'eau risque d'arrêter la parole. Donc dans ce moment où il y a encore effectivement la possibilité, même altérée, de s'adresser à un autre à travers ces manuscrits, puisque écrire, c'est toujours, même quand il n'y a pas de destinataire précis, s'adresser à un possible autre qui lira ces petits billets, ces textes par la suite. Et donc, c'est ce moment, précisément, où il y a encore une chance de sauver quelque chose, ce moment où les mots ont encore, possiblement, un pouvoir de conjuration du sort.
Mmh. C'est étrange parce que, au fond, il y a des moments dans l'exposition où, je pense à Georges Hiverneau, par exemple, 1949, La peau et les os, ça a été publié, mais on sent bien qu'il parle de ceux qui meurent autour de lui, et il dit, on n'est plus autant des mots. Et on n'est plus autant des mots, et pourtant, le mot devient une lame, une puissance incroyable. On n'est plus autant des mots, mais le mot n'a jamais été aussi fort. Qu'est-ce que vous en pensez, ce paradoxe, au fond?
Oui, je pense que c'est effectivement ce que dit Laurence, c'est ce moment d'arrachement à une possible mort qui est là, qui se profile, qui va, je parle de mort psychique ou peut-être de mort réelle, c'est ce moment d'arrachement à cette menace-là ou à ce vécu-là qui est au bord duquel on se trouve, qui est en lisière de la conscience qui fait que on arrache de soi ces mots qui sont aussi percutants, aussi incisifs, aussi bouleversants à lire, comme on le voit dans cette exposition, tout au long de cette exposition, j'ai envie de dire.
Laurence Lebras, vous voulez ajouter ?
Donc, je précise juste peut-être pour les auditeurs qu'il n'y a pas de manuscrit de Georges Hiverneau dans l'exposition, mais c'était effectivement une citation que j'utilise dans l'introduction du catalogue. Et ces mots de Georges Hiverneau, voilà, on n'est plus au temps des mots, mais vous le dites, on écrit encore. Eh bien, André Chénier aussi le dit très bien dans un de ses derniers poèmes écrit la veille de son exécution. Et j'utilise cette citation aussi à la fin de l'introduction. S'il est écrit aux cieux que jamais une épée n'étincellera dans mes mains, dans l'encre et l'amertume, une autre arme trempée peut encore servir les humains. C'est-à-dire cette plume-là par laquelle on va, une dernière fois, soit se battre par les mots pour défendre sa liberté, soit exprimer une dernière fois ce qu'on a à dire pour que, en quelque sorte, tout n'ait pas été totalement en vain. Eh bien, cette plume-là, ce crayon, cette pointe d'épingle qui va servir à graver un mot, c'est cette dernière arme.
Ce n'est pas une image, je précise que ce que vous dites n'est pas une image. Quand vous dites une pointe d'épingle qui sert à graver un mot, il y a dans l'exposition un manuscrit fait de trous d'épingles un par un, c'est absolument
tout à fait,
bouleversant.
Oui.
C'est quand il n'y a plus rien pour écrire, sauf ou son sang ou
effectivement,
un instrument qui n'est pas fait pour ça.
Effectivement, puisque l'exposition parle de cette écriture aux limites, au moment d'avant la fracture, et bien souvent ce moment-là, c'est aussi dans un moment où on n'a plus rien. On est dans une situation de dénuement, notamment par exemple les prisonniers, et effectivement dans la section prison, on présente un certain nombre de manuscrits qui témoignent de ces ruses d'écriture pour pouvoir écrire coûte que coûte. Vous le disiez, l'écriture avec le sang, l'écriture sur du tissu, l'écriture à la pointe d'épingle, l'écriture sur du bois, l'écriture sur des feuillets de papier hygiénique aussi, avec ce journal des déportés du camp d'Esterwegen. Formidable journal, ils réussissent, un petit groupe de déportés, de prisonniers réussit à fabriquer un poste radio qu'ils écoutent clandestinement la nuit, et ils notent sur les feuillets de leur rouleau de papier hygiénique, il y en avait un distribué par baraque, par mois, ils notent en sténo les nouvelles qu'ils entendent. Ils se concentrent surtout sur les combats, les conférences diplomatiques, donc c'est vraiment une volonté de s'informer de la situation à l'extérieur, de l'évolution de la guerre, et ils recopient ce texte en sténo ensuite en français et en flamand, pour toujours sur des feuillets de papier hygiénique, pour diffuser ce journal dans le camp. C'est un formidable écrit de l'extrême, ce journal.
Alors, l'effort est à chaque fois inouï, fait pour parler encore. Alors, mais avant de rentrer dans la description de cela et de l'exposition, je suis sensible à ce que vous disiez, évidemment, c'est-à-dire, Annie Franck, la dislocation du langage. Et peut-être qu'il y a dans l'exposition un très beau... un très bel exemple, c'est celui de Mallarmé dans le tombeau d'Anatole. Peut-être écoutons un instant cette dislocation du langage.
Il est fait général, il doit. Est-il mort? C'est-à-dire frappé à mort? Non. Et revient-il déjà dans l'espace du doit mourir, du futur terrible qui l'attend? Tu peux, avec tes petites mains, m'entraîner dans ta tombe. Tu en as le droit. Moi-même qui te suis, moi, je me laisse aller. Mais si tu veux, à nous deux, faisons une alliance, un hymen superbe. Et la vie restant en moi, je m'en servirai pour... plus de vie pour moi. Et je me sens couché en la tombe, à côté de toi.
Nous venons d'entendre un extrait des 212 feuillets de Mallarmé, un tombeau d'Anatole. Je suis avec Laurence Lebras, commissaire de l'exposition Les manuscrits de l'extrême à la Bibliothèque nationale, et Annie Franck, psychanalyste. Laurence, qu'est-ce que nous venons d'entendre ?
Alors, nous venons d'entendre les notes que prend Stéphane Mallarmé en 1879, à l'été, l'hiver 1879, alors que son fils Anatole, âgé de 8 ans, est malade et au moment de la mort de son fils, sur des petits feuillets de papier qui n'étaient absolument pas destinés à la publication, Mallarmé jette ces mots qui sont une confrontation à la mort entre refus et acceptation. Et par les mots, il y a cet essai, cette tentative aussi de transcrire dans le langage cet impensable de la prochaine mort, puis de la mort effective de son fils Anatole. Il y a dans l'exposition le manuscrit, qui est un tout petit manuscrit, est ouvert à cette... J'apporte cette précision, tout petit, parce que ça le rend d'autant plus présent qu'il est tout petit dans la vitrine.
Mais le minuscule est monumental dans l'exposition, c'est très important.
Oui, mais et ce manuscrit-là prend une dimension terrible par les mots qui sont portés sur ces feuillets. Et il est ouvert à cette page où Mallarmé écrit de son fils, il est mort absolument. Il a besoin d'ajouter ce mot absolument pour rendre tout à fait réel dans sa propre existence cette mort de son fils, cette absence définitive qui demeure un impensable, qu'il a énormément de mal à concevoir comme devenu réel dans sa vie. Et ces mots sont une tentative de rendre cette mort réelle.
Annie Franck, l'artiste, en l'occurrence, mais parfois pas l'artiste, le simple soldat, le simple prisonnier, atteint un niveau de conscience qui rend son expression incandescente. Est-ce que être artiste, c'est essayer de rejoindre par des moyens expérimentaux des situations de crise aussi fortes qui nous ouvriraient à une possibilité de conscience illimitée ou plus vaste, infiniment plus vaste? Ou est-ce que c'est très naïf ce que je vous dis?
Non, pas du tout. Non, c'est extrêmement intéressant cette idée-là. C'est aussi peut-être aussi tenter de dépasser le vécu de des réductions totales aussi par la reprise d'une forme donnée à ce qui a été vécu et aussi dramatiquement. Par aussi une espèce de recomposition d'une adresse possible à l'autre. Je pense que l'artiste, il est peut-être toujours sur ce fil-là, en contact avec cette expérience en lui, le risque de basculer vers quelque chose qui n'aurait plus ni forme ni adresse possible. Et qu'à chaque fois, au fond, il reprend ce mouvement de retrouver forme et adresse vers autrui.
Laurence Braz.
Oui, on le voit dans la section possession de l'exposition à travers certains manuscrits de l'internement. Je pense par exemple au dessin de Georges Focus, qui est un peintre du XVIIe siècle. C'est l'un
interné
des...
aux petites maisons.
Voilà, et c'est l'un des plus anciens témoignages, en tout cas que l'on connaisse à ce jour, de création dans des conditions d'internement. Et Georges Focus est dans ce processus de reconstruction de lui-même, de rester en fait en quelque sorte raccroché au wagon de sa vie à travers ses très grands dessins qu'il réalise par dizaines, où il se met en scène et où il a besoin des mots pour raconter à la fois sa vie et des événements qui concernent la vie littéraire, artistique de son temps. Et donc il y a besoin de ces mots-là, jetés sur le papier, parfois de façon totalement incohérente, pour ne pas perdre totalement le contact avec sa vie. On le voit aussi dans un des manuscrits du Centre d'études de l'expression du Musée d'art et d'histoire de Sainte-Anne, qui est un rouleau rédigé par un anonyme, un rouleau couvert de mots, et on sent bien que ces mots-là, qui eux aussi viennent de façon incohérente raconter une vie, vie, eh bien, malgré tout, malgré cette incohérence, ils sont un moyen de ne pas sombrer totalement.
Absolument.
Dans l'exposition, vous avez choisi plusieurs thèmes, parce que tel que nous commençons, on a l'impression que l'exposition n'est que sur le drame au bord de la mort. Mais il y a d'autres sujets que vous avez abordés dans l'exposition qui sembleraient créer une tension psychique équivalente. Laurence, dites-nous ces sujets.
Oui, tout à l'heure je disais des manuscrits écrits alors qu'un être est sous le coup d'une menace, soit de mort imminente, soit de perte d'équilibre. Donc tous les manuscrits n'ont pas été écrits la veille de la mort, la veille d'une exécution. Mais ils nous confrontent tous à un moment où il y a un risque pour notre humanité, c'est-à-dire notre façon d'être un être humain, ce qui nous constitue en tant qu'être humain, parce qu'il y a un risque que tout soit bouleversé, soit donc lorsqu'on est confronté à un deuil, la perte d'un être cher, comme Stéphane Mallarmé tout à l'heure, soit parce qu'on est confronté à un désir incandescent qui nous met dans un état cet état de risque de perte d'équilibre, de rupture de la relation avec soi-même, un état de conscience différent aussi, l'écriture sous emprise de la drogue, l'écriture sous emprise des esprits, l'écriture donc dans des conditions d'internement, l'écriture aussi sous le coup de l'état de grâce.
La drogue, il y avait Cocteau, que vous avez pris comme exemple, mais il y a Michaud aussi, bien entendu. Les écritures, Victor Hugo, bien
Victor
entendu.
Victor Hugo, les séances spirites, où le démon Asmodée qui parle par l'intermédiaire de la sœur Jeanne des Anges, qui est
une
dépossédée de Loudun au XVIIe siècle, et qui, lors d'une séance d'exorcisme, écrit donc sous la dictée du démon Asmodée, ce texte qui est censé être la parole de ce démon Asmodée. Donc effectivement, ces manuscrits-là ne sont pas écrits alors que la mort menace, mais ils sont écrits alors que autre chose dans un être humain s'exprime, qui le met en danger en tant qu'être humain, qui est en tout cas le moment d'un risque de rupture, de perte d'équilibre, de grand bouleversement, de tournant critique. Dans la section Péril, il y a des manuscrits qui relèvent de ce tournant critique dans une existence, c'est-à-dire celui après lequel plus rien ne sera comme avant.
Annie Franck, vous alliez dire quelque chose à ce sujet ?
Oui, je voulais dire... ajouter, mais enfin tu l'as nommé un peu rapidement au passage, la passion amoureuse, qui est quand c'est non pas un état amoureux, mais quand ça devient
une urgence absolue.
Une urgence absolue. Quand on bascule du registre du désir au registre du besoin. C'est-à-dire que ça devient
désir,
absolument
délire,
crucial.
C'est très proche, ces deux mots.
Désir et besoin.
Et délire.
Et délire. J'irais plutôt besoin et serait plus proche
du
délire. Hein,
oui. Écoutons justement peut-être écoutons Suzanne et vous nous direz qui c'est.
Je voudrais que ton nez disparaisse dans mes beaux poils qui t'aiment et qui se tordent et frisent de plaisir. Viens les voir. Ils ont chacun leur petite goutte de chaleur et de parfum. Ils s'ennuient de toi. Viens les aimer.
Vous écoutez L'Art et la Matière, vous êtes sur France Culture. Nous venons d'écouter un texte de Suzanne et vous allez découvrir de qui il s'agit.
Alors, c'est l'occasion de préciser aux auditeurs peut-être que l'exposition n'est pas constituée uniquement de manuscrits d'auteurs célèbres.
Oui.
On a parlé de Mallarmé, on a parlé de Michaud,
même ça qui est extraordinaire, c'est qu'on atteint une incandescence du texte en dehors de toute compétence, d'une certaine façon.
Tout à fait. Donc, les manuscrits d'auteurs célèbres, comme les manuscrits d'hommes et femmes ordinaires, sont présentés exactement sur le même plan, parce que, effectivement, dans ces moments critiques, qu'on soit un grand auteur ou pas, eh bien, c'est la même urgence de dire qui se manifeste, c'est le même besoin du langage, la même façon de passer par le langage pour exprimer avec intensité ses sentiments. Et Suzanne Paul en fait partie, de ces hommes et femmes ordinaires. Alors, elle est connue parce que elle est la maîtresse de Georges Huniel. Elle le côtoie pendant, elle le voit, fréquente pendant pendant plusieurs années. Et ces manuscrits qui sont présentés dans l'exposition sont des petits billets, des petits mots inscrits sur des tout petits morceaux de papier. Ces petits mots de l'amour, cette façon qu'a l'amour en tant que désir de s'exprimer, ce besoin qu'il a, cet amour de s'exprimer, de renouveler l'expression de son désir, de la faire partager à l'autre. Le désir ne peut pas, ne semble pas pouvoir se passer de ces petits mots-là, renouveler, envoyer régulièrement à l'autre.
Parfois historié de dessin, sous l'emprise de la passion ou de l'excitation que crée la simple rédaction de cela, n'est-ce pas ?
Oui, et ces dessins sont très intéressants. Les dessins auxquels vous faites référence sont aussi dans des lettres de femmes ordinaires. Notamment, il y a une jeune femme, Henriette, une jeune femme qui écrit à son amant Paul. Elle vit au 19e siècle et elle écrit des lettres à caractère érotique, donc pour l'époque, pour son milieu.
Incroyablement franche et audacieuse.
Tout à fait. Ouais. Et elle dit, je vais peut-être mal la cité, la messée, elle dit je voudrais écrire une lettre qui soit... Vous l'avez là.
Oui. Dites-le nous alors.
Je voudrais pouvoir t'écrire une longue lettre aussi délirante que le sont mes sens en pensant à toi.
Oui, c'est vraiment et ce moment où l'écriture tente de rendre compte de cette intensité, de cette incandescence du désir. Et là, comme tout à l'heure, dans le deuil, on avait la confrontation avec cette difficile transcription dans le langage de l'impensable, de la mort. Eh bien, au moment du désir, on a aussi une difficulté à exprimer pleinement cette intensité. Et c'est pour cela qu'elle a besoin, Henriette, comme Tina aussi, elle a besoin d'en passer par le dessin à la fin de ses lettres. Elle ajoute des dessins en marge, donc Henriette, et Tina ajoute aussi des dessins sur ses lettres pour essayer de rendre compte encore plus intensément de cette violence du désir.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, j'avais envie de lire quelques phrases que Boris Taslitsky, qui était un peintre, qui a été déporté à Buchenwald, et d'ailleurs il était ami avec Georges Samprin, écrit juste au sortir des camps. Et c'est parallèle, enfin moi je repensais à Henriette en lisant ça. « Je t'aime follement, grandeur nature, la mienne. Il entre dans mon amour un furieux besoin d'aller aux sources. » Aller aux sources, c'est peut-être détruire, faire la preuve par le massacre. J'irai chercher tes mots, un à un, de ta bouche vers la mienne, les boire comme d'autres cueillent les fleurs, doucement, des bouquets de mots. Il n'est pas exclu que je n'aille un jour déchirer ta gorge pour y voir ta voix, découvrir ton mystère, l'embrasser.
Quel texte, enfin,
c'est extraordinaire.
Parvenir à cette puissance poétique, c'est inouï. Et le rôle du mot qui semble être le seul sauvetage, en fait.
Oui. Alors pour lui, c'était pas vraiment le cas, puisqu'il était peintre bien avant d'être déporté en tant que résistant à Buchenwald, et il a peint, dessiné surtout. Il a fait 4 aquarelles dans le camp. Grâce à l'aide des camarades du parti, puisqu'il était membre du parti communiste, et il a fait 200 dessins dans le camp de Buchenwald. Donc pour lui, le recours essentiel était plutôt le dessin et la peinture. Mais effectivement, dans ce texte-là, c'est sidérant à quel point la force de cette expression écrite.
Alors, je voudrais vous faire écouter quelque chose qui n'est pas dans la même veine, parce que ce n'est pas la force de l'expression écrite, c'est la force de la situation. Je voudrais vous faire écouter ce qu'écrivent Simone et Marie Alizon alors qu'elles sont dans le train. Écoutons.
Mon petit papa chéri, nous sommes dans le train, nous partons en Allemagne. Ne t'inquiète pas. Sommes toutes les deux bonne santé et bon moral. envoie nouvelles et colis. C'est la fin bientôt. Nous rentrons. Ne sais rien de Marcel. Embrasse tante Anne. Pensons à toi. Mille baisers de tes petites filles qui t'aiment de tout leur cœur. SVP, envoyez ce petit mot à l'adresse suivante. 31 avenue Louis Barton, Rennes. Vive la France. Trouvez ce papier dans mon jardin le long de la voie de chemin de fer Compiègne-Cergy et vous l'envoie aussitôt, le 28 janvier 43.
Évidemment, nous sommes dans une situation extrême. C'est d'ailleurs le mot qui est dans le titre d'exposition, manuscrit de l'extrême. Nous venons d'entendre Simone et Marie Alizon qui jetaient ce papier par le train. Et je suis avec Laurence Lebras, la commissaire de l'exposition. Laurence, ce papier, c'est une des pièces les plus émouvantes de l'exposition, je pense.
Oui, c'est une des pièces les plus émouvantes. Alors j'ai toujours une difficulté parce que pour moi, toutes les pièces de l'exposition sont émouvantes, chacune en raison de l'histoire dont elles sont chargées, la charge émotionnelle qu'elles transmettent aux visiteurs.
Et aussi le miracle
aussi.
Que ça a été ramassé.
Et voilà. Alors ces pièces, ces billets-là sont non seulement écrits dans une situation extrême, mais ils témoignent aussi d'un état d'esprit extrême et... nous sont parvenus de façon presque miraculeuse, donc par des voies extrêmes. Et c'est en cela, peut-être, qu'on peut dire qu'ils font partie des manuscrits les plus émouvants de l'exposition. Simone et Marie Alizon sont deux résistantes. Elles ont à peine 20 ans, deux sœurs. Elles sont arrêtées, elles sont emprisonnées à Rennes, puis à la prison de Fresnes, au fort de Romainville, et enfin, elles sont déportées depuis Compiègne vers le camp d'Auschwitz par le convoi dit des 31 000. Depuis le train qui les mène en déportation, peu après être partie de Compiègne, elle griffonne à la hâte sur du papier de récupération. Très clairement, on voit que l'un de ces papiers est un papier d'emballage alimentaire. Elle griffonne des mots à l'intention de leur père, leur mère est décédée récemment, pour lui donner des nouvelles. Et elle jette ses billets par la fenêtre du train. Il y avait une chaîne de solidarité autour des voies de déportation qui ont permis qu'un certain nombre de ces billets soient récupérés et envoyés effectivement aux destinataires dont les adresses étaient indiquées. C'est le cas des trois billets qui sont exposés. Ils sont effectivement parvenus au père des sœurs Alizon. État d'esprit extrême parce que ces jeunes filles... toutes jeunes, qui partent vers l'inconnu. Eh bien, elles écrivent à leur père « À bientôt, c'est la fin ». Il y a cette volonté. Oui, parce qu'on ne peut pas croire qu'elle-même pensait que c'était réellement la fin, bientôt. Oui. Mais il y a cette volonté de rassurer, oui. De rassurer la famille. À la fois de donner des nouvelles, donc pour les rassurer, mais aussi de leur demander de ne pas perdre courage et pour qu'ils ne perdent pas courage, eh bien, d'envoyer ces petits mots qui sont des incitations à continuer à vivre alors que soi-même on est dans une situation catastrophique. Et donc ces trois billets, effectivement, pour ces trois raisons, une situation extrême, un état d'esprit extrême et un mode de transmission extrême sont, on pourrait dire, représentent particulièrement bien ces manuscrits de l'extrême.
Alors, un autre manuscrit que j'ai trouvé très très bouleversant, c'est celui d'Henri Fertet. Vous pouvez nous dire les circonstances, on va l'écouter.
Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule. Ce que j'ai souffert de ne plus pouvoir, de ne plus sentir peser sur moi votre tendre sollicitude que de loin... Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué plus que vos colis. Et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Tout le mal que je vous ai fait. Donnez à Maurice André de la Maltournée 40 grammes de tabac que je lui dois. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon petit papa, mes collections à ma chère petite maman, mais qu'elle se méfie de la hache préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux.
Nous écoutons Henri Fertet, 17 ans, et je crois qu'il a été assassiné juste après, n'est-ce pas ?
Il a été exécuté, tout à fait. Il fait partie de ces très jeunes résistants. Exécuté, il y a un autre manuscrit d'un jeune homme de 17 ans dans l'exposition, la dernière lettre écrite par Jean Arthus.
Il y a sa photo, quelle oui. bouleversante aussi, tellement bel enfant, c'est terrible.
Oui,
c'est tous avec une maturité. Je crois que le texte doit commencer, le texte de Jean Arthus, est-ce que c'est celui-là qui commence par « mon petit papa chéri » ou quelque chose comme ça.
Alors, oui.
« Mon cher petit papa », une sorte d'inversion, comme si le père devenait le fils.
C'est le caractère extrême de cette lettre de Jean Arthus. Alors déjà, effectivement, elle est écrite le jour de son exécution. Lui et ses camarades, ils faisaient partie d'un groupe de résistants du lycée Buffon. Ils étaient 5, ils ont tous été exécutés. Ils ont eu le droit, le jour de leur exécution, d'écrire une dernière lettre à l'intention de leur famille. Et lui, Jean Arthus, écrit à son père en commençant sa lettre par cette adresse « Mon grand chéri ». C'est une adresse qui est un renversement total de situation. Il devient comme le père de son propre père. Et la suite de la lettre aussi en témoigne, puisque il lui, non pas intime l'ordre, mais bon, il lui demande instamment de continuer ses travaux, de ne pas perdre courage, alors que lui est dans cette situation où il sait qu'il va mourir l'instant d'après. Et cette extrême maturité, on la retrouve aussi chez Henri Fertet. Lui aussi 17 ans, lui aussi sera exécuté. Et de sa cellule, il écrit des petits billets à ses parents. Il n'a pas d'encre, il n'a pas de crayon. Et donc il écrit avec son sang sur des tout petits bouts de papier qui ne parviendront à ses parents qu'après son exécution.
Est-ce que vous avez l'impression, Annie Franck, que c'est la situation qui crée cette maturité, ou est-ce que c'est...
Oui, j'étais en train de me dire, en écoutant Laurence, là, que effectivement, il se trouve des situations. Ces situations que tu appelles extrêmes, ces expériences limites, où on est ramené à l'essentiel. On est comme décapé. C'est-à-dire que il y a plus cette espèce d'entourage, pas de mondanité, mais même ces enveloppes successives qui entourent le noyau de l'humanité hein, en nous. Et je pense que ces jeunes qui ont 17 ans, ils se sont trouvés jetés dans cette situation extrême et qu'ils ont trouvé en eux le contact avec ce qui est le plus essentiel pour un être humain. Voilà, je pense effectivement que c'est la situation qui effectivement...
crée cette densité oui. absolue, oui. Et alors, que dire de la situation de personnes dans une extrêmement différent Je pense à Antonin Artaud. Cet écrivain, cet artiste, ce poète, cet acteur immense, il est enfermé pendant presque 8 ans, torturé, pourrait-on dire, et il écrit absolument merveilleusement, mais surtout, lui aussi, dans cette situation dramatique, atteint une intensité qu'il a toujours recherchée, si proche du cri. Est-ce que c'est toujours ce parallèle que vous avez souligné beaucoup dans la quinzaine, entre la création artistique dans sa plus grande exigence et cela? Au fond, ce que vous disiez tout à l'heure de la poésie, j'y souscrivais tout à fait, mais on rêve qu'un poète atteigne cela.
Je suis pas...
C'est un peu confus ce que je vous dis.
D'ailleurs. Non, pas du tout. Mais je suis pas spécialiste d'Antonin Artaud, mais je pense que chez certaines personnes, ce qui est en péril, c'est de continuer à ressentir, à s'éprouver vivant au travers d'un sens. Qu'on trouve à vivre. C'est-à-dire que c'est comme s'il manquait une part du sens pour trouver une cohérence, quelque chose qui maintienne les différentes facettes de notre expérience ensemble. Et je pense que Antonin Artaud, enfin d'autres personnes qui ont touché voilà la psychose, on va dire ça, hein, comme ça, sont des personnes qui effectivement pour qui il y a une très grande difficulté à maintenir la cohérence de leur existence dans une représentation d'eux-mêmes qui voilà qui les fait s'éprouver vivant et dans une certaine logique de vie. Enfin,
c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs. Artaud, on va l'écouter tout à l'heure. Laurence Lebras, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, sur Antonin Artaud et les manuscrits qui sont présentés dans l'exposition d'Antonin Artaud. Pour moi, il s'agissait vraiment d'essayer de montrer à quel point chez Antonin Artaud, au milieu de l'expression de la folie, il y a une extrême lucidité. Mais une lucidité terrible. Et vous disiez tout à l'heure, dans ces situations extrêmes, on peut être amené justement à cette lucidité qu'on n'est pas capable d'avoir dans d'autres circonstances. Et il y a notamment, donc, dans la vitrine Artaud, cette lettre à Peter Watson du 27 juillet 1946 dans laquelle Antonin Artaud revient sur les raisons qui l'ont amené à écrire et au milieu de passages en langage inventé, de passages plus ou moins délirants, il y en a d'autres qui sont le fait de cette extrême lucidité comme celui qui compose la dernière citation de l'exposition. On ne fait rien, on ne dit rien, mais on souffre, on désespère et on se bat. Oui, je crois qu'en réalité, on se bat. Tous les manuscrits qui sont présentés sont pour moi l'expression de ce « on désespère et on se bat ». Il ajoute « appréciera-t-on, jugera-t-on, justifiera-t-on le combat ? Non. Le dénommera-t-on non plus ? Nommer la bataille, c'est tuer le néant peut-être, mais surtout arrêter la vie. On n'arrêtera jamais la vie. » Et là encore, tous les manuscrits présentés sont cette expression du « on n'arrêtera jamais la vie ». Et c'est vraiment la raison aussi pour laquelle j'ai mis en tête de l'introduction cette citation de Jean-Pierre Sescos, un auteur contemporain, dans son livre « Croquis » au sujet des mots, justement, l'utilisation du langage, où il dit « je crois que les mots ne sont pas sans importance, je crois qu'ils sont notre cirque et notre dignité ». Ce cirque, c'est cette arène dans laquelle on se débat, on désespère et on se bat. Et notre dignité, eh bien, c'est le langage comme le moyen qui nous reste pour exprimer notre humanité. Je le disais tout à l'heure, la plus haute protestation de notre humanité. Le « on n'arrêtera jamais la vie, quelles que soient les circonstances ».
Vous avez tout à fait raison. Et il y a quelque chose que l'on sent et qui me permettrait de dire à nos auditeurs pourquoi c'est une exposition? Parce que, en nous entendant, on pourrait penser que ça pourrait très bien être un livre. Et d'ailleurs, c'est un très bon catalogue. Si c'est une exposition, c'est que la matérialité des documents apporte une clarté sur la situation qui est extraordinairement importante. Et au fond, chacun des objets, ce sont des objets que nous voyons, et des objets qui portent exactement les coordonnées psychiques de la situation. Vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait, puisque c'est le point de départ de l'exposition. Quand vous parliez de l'idée de l'exposition au tout début de cette émission, en fait, elle est précisément venue d'un manuscrit dont la matérialité rend compte très directement qu'il était en train de se passer quelque chose d'inhabituel. C'est le manuscrit de Louis-Auguste Blanqui.
Extraordinaire. À l'entrée, dès l'entrée de l'exposition.
Dès l'entrée de la section prison, ouais. Effectivement, ces feuillets, ces petits feuillets transparents, couverts d'une écriture microscopique, recto verso, sans marge. C'est un manuscrit, le manuscrit de L'éternité par les astres, son dernier ouvrage, qu'il écrit alors qu'il est emprisonné au fort du Taureau, dans la baie de Morlaix. Et il utilise cette écriture microscopique pour une raison très pratique, c'est qu'il a la possibilité de faire entrer et sortir des colis, mais il lui importe d'alléger le poids des colis pour payer moins cher. Et donc, il a déjà utilisé cette écriture microscopique pour des lettres et d'autres manuscrits. Et ce dernier texte, il en copie la version définitive sur ces feuillets qui, quand on les voit, par leur matérialité même, nous transmettent quelque chose de la situation vécue. Et c'est en voyant ce manuscrit qu'est venue l'idée de rassembler d'autres manuscrits qui, par leur matérialité, témoignent directement de situations extrêmes, de l'état d'esprit, des sentiments de l'auteur, de la personne qui vivait ces situations. Donc des manuscrits qui font véritablement corps avec la situation. Ils en deviennent effectivement, vous disiez tout à l'heure, des objets. Des objets qui retracent une histoire.
Ils sont des objets de projection du corps même. Hein, comme tu l'as dit à un moment dans ton introduction, je trouve ça, cette dimension-là est extrêmement importante, je trouve, et très forte, de en quoi ces textes, avec leur matérialité, sont en fait une traduction ultime du corps vivant, hein, avec ce que ça comporte de pulsions aussi, enfin voilà, c'est...
Parce que dans ce texte dont vous parlez de Blanqui, donc faut se rendre compte que Blanqui a passé quoi, la moitié de sa vie en prison, oui, hein, 35 ans en prison. C'est un texte qui est si fragile qu'il attire l'attention. Faites très attention, ça pourrait se déchirer à tout moment. Je n'ai pas eu le temps de les transcrire, etc.
Oui, il dit que lui-même aura besoin d'une loupe pour les déchiffrer, que lui seul pourra les transcrire et qu'il faut faire très attention quand le colis va être ouvert, parce que si on n'est pas assez précautionneux, ces feuillets peuvent se déchirer. Et c'est le cas. Hein, ce sont des feuillets qui sont extrêmement fins, un peu comme du papier calque. Et donc, en plus, comme le texte couvre les feuillets sur la totalité du feuillet, il faut imaginer qu'il n'y a pas une seule marge sur ces feuillets.
Ils paraissent absolument illisibles. Enfin, quand on est devant, il n'y a aucune chance de les lire, hein, sincèrement.
Si, parce que Blanqui a eu l'intelligence d'écrire au verso, dans l'interligne du recto, ce qui fait que le texte reste déchiffrable, puisque malgré l'effet de transparence, il n'y a pas superposition totale du recto.
Mais quel travail de dentelière, si je puis dire, dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la dentelle. Et, mais dans les autres manuscrits, par exemple, je pense au père de Jean Tardieu, du fameux poète Jean Tardieu, qui est extraordinaire. Vous pouvez le décrire
C'est un manuscrit extraordinaire aussi, comme fait témoignage d'une écriture. Voilà, une écriture extrême. Il est effectivement sur le front, donc Victor Tardieu, le père de Jean Tardieu. Il envoie régulièrement des nouvelles du front à son fils, qui est alors tout jeune adolescent. Et un jour, il a l'idée de décrire à son fils l'intensité et la fréquence des éclatements d'obus à côté des soldats, donc à côté de lui. Et pour cela, il décide d'entreprendre de dessiner ces éclatements d'obus sous la forme de points entre les lignes dans le moment de l'écriture de la lettre. C'est-à-dire au rythme, il les note dès qu'il les entend, au rythme où il écrit. Et on voit bien, à un certain moment, justement, il écrit le mot « moment » et dans le temps de l'écriture de ce mot « moment », il entend 5 éclatements d'obus. Mmh. Il utilise des petits points pour les éclatements qui sont lointains et des gros points pour les éclatements qui sont proches. Il fait ça pendant plusieurs lignes de sa lettre et à un moment donné, il dit « mais bon, je vais arrêter parce que je n'arrive plus. »
Il faudrait faire des doubles croches, voilà. Il faudrait faire de la notation musicale.
Il n'arrive pas à suivre le rythme, il va devenir complètement fou à ce petit jeu et effectivement, il faudrait pouvoir faire de la notation musicale, comme vous le disiez à l'instant. Double croche étant une expression qu'on retrouve dans le poème de Guillaume Apollinaire, La nuit d'avril 1915, où il dit « La mitrailleuse joue un air à double croche ». Et cette tentative, la d'écriture de cette intensité des éclatements d'obus nous les rend palpables à nous maintenant. On arrive à saisir cette intensité et cette fréquence en voyant sa lettre.
On a aussi les très beaux textes d'Apollinaire qui sont extraordinaires parce qu'ils sont une sorte d'inversion sur la beauté de la nuit, très très impressionnant également.
Oui, Apollinaire, il écrit constamment dans les tranchées, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, le froid, la boue, il dort dehors, mais il écrit toujours. Et il écrit donc notamment ses lettres à Louise de Coligny, à Madeleine Pagès, lettres dans lesquelles il joint des poèmes, ces poèmes qui seront publiés plus tard sous le titre Calligramme, et ces poèmes qui sont effectivement une tentative d'écriture du plus sombre, du plus lugubre, en essayant d'y trouver encore de la vie finalement dans ce plus sombre-là et ce plus lugubre.
Et puis il y a le carnet déchiré, les derniers mots de Paul Valéry.
cette ligne qui reste en suspens sur son cahier, effectivement, les derniers mots écrits après la mort, c'est aussi une forme d'écriture extrême. On a un autre manuscrit dans l'exposition qui témoigne de ces derniers mots avant la mort, qui prête un peu plus à sourire du fait de son contexte d'écriture, puisque c'est un codicille rédigé par un riche propriétaire de l'Hérault, François Sabatier, qui a la bonne ou la très mauvaise idée de modifier son testament le jour de sa mort en rédigeant donc ce codicille d'une écriture totalement illisible de mourant. Et il a fallu donc une armée de graphologues pour parvenir à déchiffrer ce manuscrit. Il leur a fallu beaucoup de temps. Ils ont finalement réussi à le déchiffrer. Le codicille a été reconnu valide sur le plan juridique. Il modifiait radicalement la destination de l'héritage. Donc c'était effectivement très important de pouvoir le déchiffrer. Mais voilà. Un autre type de manuscrit de l'extrême qui rencontre par sa matérialité même, là, une écriture qui devient totalement illisible, et bien qui rencontre de ces circonstances extrêmes traversées par un auteur. L'écriture qui devient illisible, c'est aussi par exemple celle de Pierre Guyotat, qui en 1981...
Dans la faiblesse absolue.
Est dans un état de faiblesse absolue, il est en train de tomber dans un état d'inconscience, il tombera d'ailleurs dans le coma, il se fatigue à la tâche, il mène 3 projets de front, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de tomber dans cet état d'épuisement. Il continue à écrire. Et écrivant dans cet état-là, les lignes qu'il écrit tombent elles-mêmes au bas de la page. Les mots ne sont plus formés, les lettres ne sont plus formées.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les manuscrits de la fin, là, s'il ne s'agit pas de la fin physique, mais de la fin morale, j'ai l'impression, quand on lit le brouillon d'abdication de Napoléon, par exemple, illisible, raturé, dans une émotion sans doute terrible, non ?
Ah bah oui, puisque abdiquer pour Napoléon, c'était la dernière extrémité. Mais c'est un brouillon d'abdication par lequel il essaye de sauver encore quelque chose de son pouvoir. Donc c'est une dernière tentative de se maintenir quand même encore à travers la personne de son fils, à travers la personne de l'impératrice, de se maintenir dans un état de pouvoir dans lequel il a été précédemment. Mais c'est aussi une sorte de cri de désespoir, ce brouillon d'abdication. Ça signe la fin pour Napoléon.
Il y a aussi, alors là c'est encore une autre aventure, si je puis dire, le capitaine Dreyfus. Donc, terrible exemple, je trouve, où on sent que seuls les mots lui permettent de résister encore jusqu'à la dernière goutte de sang, dit-il.
Pour Dreyfus, les mots sont extrêmement importants parce que c'est ce qui lui permet, il le dit lui-même, c'est ce qui lui permet de ne pas sombrer dans la folie. Alors les mots, c'est pas seulement juste, les mots c'est le travail intellectuel auquel il s'astreint chaque jour pour ne pas sombrer dans la folie, parce qu'il est dans un isolement total. Déjà, il est donc sur l'île du diable, mais en plus, en 1896, alors qu'il a été accusé de vouloir s'évader, on a construit une palissade autour de sa cabane et il ne voit plus la mer.
Ouais.
Donc, il n'y a plus rien. C'est une extrême solitude. Et dans cette extrême solitude, le travail et l'écriture liés à ce travail cérébral, cet exercice cérébral auquel il s'astreint chaque jour, c'est son seul secours. Et on a donc deux manuscrits, deux de ces cahiers de travail à l'île du diable qui présentent sur presque tous les feuillets ce dessin qui est à caractère obsessionnel, dimension obsessionnelle, ce dessin dont on ne sait pas ce qu'il représente, mais qui témoigne véritablement pour nous qui le voyons de l'angoisse dans laquelle se trouvait Alfred Dreyfus lorsqu'il était donc dans ces conditions d'enfermement. Et la seule raison aussi pour laquelle il tient et il continue, il s'astreint à cet exercice, il s'astreint à écrire, c'est qu'il a fait la promesse à sa femme de ne pas se suicider et il souhaite tenir cette promesse.
Annie Franck, il y a un autre aspect qu'on a abordé à plusieurs reprises, puisqu'on a frôlé dans notre conversation les questions de la psychose et aussi la question de l'intensité poétique. On a l'impression que parfois, Michaud par exemple, mais peut-être aussi d'autres artistes, essayent de travailler à partir d'une sorte de psychose expérimentale ou Cocteau en se servant des psychotropes pour aller au plus loin et chercher d'autres façons d'écrire, ou bien encore peut-être, je pense à Robert Desnos avec les expériences sur le sommeil quand il dit cette phrase très belle, les caresses de demain nous révéleront-elles le carmin des déesses. C'est très beau, et c'est des états de semi-conscience et des états d'hyper-conscience. Est-ce que c'est pas deux choses qui s'opposent, la semi-conscience et l'hyper-conscience?
Surtout, je pense que il y a effectivement des écrits qui cherchent à aller aux sources de la sensorialité, du sensoriel. Hein. C'est-à-dire que ces expériences-là, entre autres, mais parfois certaines écritures vont chercher, alors je pense là... à Virginia Woolf, par exemple, hein, vont essayer de traduire ce qui n'est pas, ce qui appartient, qui n'est presque plus du monde des idées, mais du monde de la sensorialité et de ce qui est le mode le plus primitif, on peut dire, du rapport au monde, le tout premier mode par lequel on entre en contact avec le monde. Bien sûr, on est accueilli par un bain de langage, etc. Mais on est confronté à des expériences sensorielles totalement déflagrantes. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'artistes, bien sûr, c'est pas tous, et d'écrivains, qui recherchent cette espèce de monde d'avant. La pensée, on peut dire. Voilà.
Laurence si Lebras, vous êtes, j'espère, sorti indemne de cette exposition, parce que c'est pas facile.
Non.
Oui, j'en suis sorti indemne, avec toujours beaucoup d'émotions quand je revois les manuscrits, alors même que je travaille sur ces manuscrits depuis un an maintenant, c'est-à-dire c'est une émotion totale, renouvelée. Voilà.
Merci infiniment, Laurence Lebras, de nous avoir communiqué, fait partager ce travail et cette émotion intense. Merci beaucoup, Annie Franck.
Merci à vous.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Laurence Lebras, conservatrice au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Et j'étais également avec Annie Franck. Merci Annie Franck d'avoir participé à cette aventure. Vous avez un livre qui s'appelle Entre-là, chez un très bon éditeur, les éditions du Crépuscule, et qui est consacré à cette relation entre la création et le trauma. Non, c'est pas exactement ça.
Le labyrinthe de soi, on pourrait dire.
Voilà. À propos de cette exposition, donc, vous retrouverez toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. La lecture des textes, c'est Eric Herson-Macarel, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Thomas Jost. Bon après-midi sur France Culture.